Oui, que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai pris un passage de référence avec une pensée simple à vous partager. Donc j'ai laissé toutes les notes que j'avais pu prendre ces derniers temps. Et puis vous dire quelque chose de très simple à partir de la deuxième à Timothée, là aussi à travers la lecture de cette semaine. Nous étions dans la deuxième à Timothée. Et je prends au chapitre 1, à partir du verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance, ou qui a même détruit la mort dans la version que j'ai lue, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors je prends ce passage comme référence à ce message, parce que déjà, il m'a saisi cette semaine par le cœur du message, c'est que Dieu avait un dessein en Jésus-Christ avant les temps éternels. Qu'il avait dans son cœur le dessein de nous sauver. C'était dans son cœur avant les temps éternels, c'était prévu. Et il a conçu cela en lui-même, c'est dit de plusieurs façons dans les Épîtres. Le Seigneur avait conçu en lui-même de nous sauver. Et à un moment donné, il l'a fait. Il l'a fait. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. D'un seul coup, tout ce qui était dans le cœur de Dieu depuis l'éternité, depuis les temps éternels, d'un seul coup, ça nous a été donné par la parution de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans le monde et tout ce qui était dans le cœur de Dieu, tout le salut qu'il voulait pour nous, nous a été donné. Ça s'est réalisé. Nous avons reçu, on peut dire, le package complet. Complet. C'est fait. L'Évangile est réalisé par la venue, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est le message total, le message énorme. Le message du salut de l'humanité par la venue du Fils de Dieu. Donc rien que cela, c'est ce qui doit saisir nos cœurs et nous affermir dans la même pensée que Paul. Je sais en qui j'ai cru. Si nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons le salut de Dieu. Et rien ne peut nous déstabiliser, rien ne peut aller à l'encontre de cela, puisque le Seigneur a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Mais le passage est encadré par deux mentions de la souffrance. Pour le témoignage à rendre à cet évangile, il y a une souffrance, puisque le monde n'était pas prêt à recevoir cela. Et dans sa nature rebelle, le monde n'est toujours pas prêt. Mais donc l'apôtre dit à Timothée, n'aie point honte du témoignage, donc à rendre à l'Évangile, ni de rendre à notre Seigneur, ni de moi, n'aie pas honte de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Souffre avec moi pour l'Évangile. Et ensuite, il conclut, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. Pas de honte pour l'apôtre, pas de honte pour le disciple. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt pour ce jour-là. Alors l'apôtre là se projette dans ce qu'il ne définit pas avant, hein, dans le texte, ce jour-là. Bien sûr que ce jour-là, c'est le jour de la manifestation de la victoire de l'Évangile, de la gloire éternelle, du jour où justement l'immortalité sera donné à tous. Il a ça à l'esprit, parce que la conclusion de l'histoire, c'est cela. Le Seigneur va triompher du péché de l'homme et il va installer son royaume de gloire. Et pour cela, il faut des serviteurs qui, dans un contexte de rejet, n'aie pas honte de porter ce message. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Cette parole, eh bien, forcément qu'elle est pour nous encore aujourd'hui. Et elle est pour nous d'autant plus dans les temps que nous vivons. Puisque l'apôtre plus loin, donc, on l'a lu vendredi à la prière, affirme, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et ayant même, alors il ne dit pas que c'est tous les hommes, mais certainement, donc dans son esprit, c'est un certain nombre, ayant même l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voilà ce qui arrivera dans les derniers temps. Et nous croyons que nous sommes dans les derniers temps. Et que nous sommes revenus à la situation quasiment identique à celle des premiers chrétiens. Comment, dans quel contexte l'Évangile a-t-il été donné ? Dans le contexte d'un empire. Un empire qui dominait sur le monde et qui dominait même sur la nation de Dieu, la nation d'Israël. Et les apôtres ont reçu l'Évangile et ont commencé à prêcher à la nation, à prêcher autour, aux autorités, et Paul jusqu'à César, l'empereur suprême. Il est allé annoncer l'évangile. Lui et tous les apôtres et l'Église ont annoncé l'évangile à l'Empire, qui, dans un premier temps, était complètement surpris, indifférent et même hostile à cette parole nouvelle qui faisait que les chrétiens adoraient un Seigneur qu'ils ne voyaient pas, qui régnait dans les cieux, dont l'apôtre dit dans l'Épître aux Hébreux, nous ne voyons pas maintenant qu'il règne sur toutes choses, mais il règne. Et qui proclamait Jésus-Christ est Seigneur. Face à cet empereur qui se prenait pour un seigneur, un demi-dieu, hein, dans la mentalité de l'époque. Et les apôtres ont annoncé l'évangile. L'Église a annoncé l'évangile. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré le rejet, malgré la persécution, malgré les souffrances sans nombre des premiers chrétiens, l'Évangile a triomphé. L'Évangile s'est répandu dans le monde entier, comme Paul en témoigne dans une autre épître. Il s'est répandu, il a fait son œuvre parmi toutes les nations. Alors l'Empire a eu le destin que l'on connaît, il a fini par se disloquer, et l'Empire lui-même a dû reconnaître la puissance de l'Évangile. Et ensuite, il a été disloqué et les nations ont récupéré en quelque sorte, chacune à leur manière et ont essayé de tirer le meilleur profit, en fait, de cet évangile, à leur propre avantage, parce qu'ils en voyaient l'efficacité, les bienfaits. Et ça s'est prolongé comme cela pendant quelques siècles et millénaires. Et puis les nations elles-mêmes, donc avec leurs rois, hein, puisque les rois très chrétiens dirigeaient les nations, eh bien, les nations ont commencé à connaître elles aussi leur jugement, parce que cet évangile qu'elles récupéraient à leur profit, elles ne le mettaient pas en pratique, elles ne le vivaient pas à la gloire de Dieu. Et elles ont fini par être jugées pour leurs propres péchés. Et puis c'est intervenu ce qu'on appelle la révolution ou les révolutions. Et le contexte a encore changé. Mais les nations sans socle, ne peuvent pas subsister toutes seules, donc elles se sont à nouveau désirées s'unir. Hein. Et finalement, qu'est-ce que ça redonne? Ça nous donne un nouvel empire. Un nouvel empire qui s'est installé et qui régente quand même à la vie de ce monde. Et au sein de cet empire, les diverses nations maintenant sont dans la phase inverse. Elles sont en train de rejeter l'Évangile, rejeter la crainte de Dieu, rejeter la vérité. Et par conséquent, nous revenons à ce point de départ où l'Église annonce l'Évangile face à l'Empire. C'est ça la situation actuelle. Et l'Église doit maintenant assumer seule le message, l'espérance, la prédication et la vie de l'Évangile. La vie concrète, la vie, les solidarités concrètes que produisent l'Évangile. L'Évangile fait que nous avons un mode de vie, un mode de vie, une morale, un lien dans la vérité et l'amour. Et ça, c'est l'Église qui le porte et qui étend toujours la grâce autour d'elle, qui manifeste l'amour et la grâce de Dieu à ceux du monde qui ont été rattrapés par les pensées et le désastre moral de ce monde et le malheur qui va avec. Et c'est à l'Église à continuer à dire la vérité de Dieu, l'espérance, l'Évangile, le jour du royaume éternel, et d'en manifester concrètement les fruits aujourd'hui. Nous avons les promesses pour le temps présent et pour l'éternité, dit l'apôtre. Donc, si nous voulons chercher un lieu pour connaître, vivre, s'épanouir dans la vérité et un bonheur qui reste relatif au sein de ce monde pécheur, c'est en développant le témoignage de l'Église. L'Église locale, corps social, autant que corps spirituel, de plus en plus, contre-société, contre-culture, parce que l'Église a son inspiration et son enseignement de Dieu lui-même, de sa parole, de l'Esprit-Saint. Et elle peut, et non seulement elle peut, mais elle doit encore se positionner vraiment au sein de ce monde comme détenant la vérité, en tout cas étant soumise à la vérité, parce qu'on la détient jamais, mais on s'y soumet à cette vérité et on la transmet autour de nous. Et alors, nous serons nous aussi persuadés que Christ a la puissance de garder notre dépôt jusqu'à ce jour-là. Nous avons reçu en dépôt la vérité, en dépôt la grâce de Dieu, en dépôt la parole du salut. Et le Seigneur gardera ce témoignage juste pour le jour de son apparition. Nous serons prêts pour ce jour-là, en partageant les souffrances de ce témoignage. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, dira l'apôtre dans un autre passage. C'est toujours la même pensée qui traverse les épîtres. Nous avons reçu un tel trésor que nous ne pouvons pas manquer de le partager, mais à la limite, même si nous ne le partagerions pas en parole, le mode de vie chrétien est en lui-même une protestation silencieuse contre l'iniquité de ce monde, et l'Église ne serait pas supportée rien qu'à cause de cela, parce que les gens qui vivent dans le péché ne supportent pas de voir à côté d'eux un exemple, un contre-exemple. Donc, vraiment, soyons persuadés et acceptons cette souffrance en nous tenant fermement sur le terrain de la vérité. Le Seigneur vient, les tribulations viennent sur le monde. Le Seigneur a quand même dit que la détresse serait si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde. Donc, il y aura des difficultés matérielles et ce monde qui s'est habitué au confort et à posséder toutes choses comme si tout était à sa maîtrise va vraiment très vite déchanter. Et déjà maintenant, d'ailleurs. Voilà, je voulais dire quand même un petit fait culinaire. Cette semaine, j'ai mangé le rump steak le plus dur de ma vie. Régine, qui l'avait acheté dans mon intention pour que j'aie un bon morceau de viande, était démontée lors du repas, rien qu'à la préparation, elle s'est aperçue. Mais pourquoi est-ce que je voulais le dire quand même? Parce que ben, si un tel morceau de viande est vendu, je me suis dit que quand même, ça veut dire qu'ils n'ont plus grand-chose d'autre à vendre. Et que c'est un prémisse de grande difficulté pour la nourriture qui vient. Donc je ne le prends pas, je le prends prophétiquement. Vraiment, j'ai ressenti, c'était étonnant, un morceau de viande comme celui-là. Donc, oui, la détresse, là je peux en rire parce que voilà, c'est un. Mais la détresse vient sur le monde. Les difficultés arrivent. Et peu importe que nous ayons l'abondance ou la disette, dit l'apôtre, hein. Voilà, nous nous contenterons de ce que le Seigneur nous donne parce que nous avons des biens bien plus précieux. Et puis, cette semaine, beaucoup plus. Un signe beaucoup plus grave pour l'Église, bah, c'est que les Français ont choisi de donner à la femme le droit de vie ou de mort sur sa descendance. C'est-à-dire. Oui, enfin, oui, les autorités, hein, les autorités. Il y aurait eu en fait une possibilité que ce soit les Français, si le premier processus avait été à son terme, qui aurait donné un référendum. Hein. Mais cela a été court-circuité pour que les projets de cet esprit révolutionnaire, en fait, l'emportent. Et maintenant, beaucoup de femmes vont avoir à assumer seules et porter ce fardeau dans les temps qui viennent. Parce que c'est un véritable fardeau qu'on a mis sur elles. Alors l'Église sera là aussi pour porter le fardeau avec certaines, effectivement, qui comprendront et que ce fardeau est trop lourd, que nous soyons là vraiment aussi pour elles. Donc, mais en même temps, bien sûr, cela signifie aux croyants, laissez-nous tranquilles, soyez dans votre coin, n'intervenez plus dans le domaine de la morale publique, etc., etc. Donc, ce sera aussi difficile de continuer à aider ceux qui seront en grande difficulté par cet état d'esprit. Mais voilà, souffre avec moi, dit l'apôtre, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen.